Je suis Nadège Billery et je suis naturopathe et conseillère en compléments alimentaires. J'ai créé une association qui s'appelle l'association MAABE qui permet en fait d'organiser des formations pour les particuliers, se former à la naturopathie familiale. Et du coup, ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir être autonome et d'utiliser des traitements naturels. Pour se guérir. La première chose en fait qu'on apprend quand on fait ces formations-là, c'est pour maintenir à un haut niveau la santé, eh bien, il faut que déjà la vitalité disponible dans l'organisme, cette vitalité va dépendre de quatre éléments principaux qui sont, alors premièrement, eh bien, l'alimentation. Ça, c'est vraiment le béaba. Principalement, il faut que l'alimentation soit naturelle. Il faut qu'elle soit mesurée, il faut qu'elle soit digeste, équilibrée et il faut qu'elle soit individualisée. C'est ce qu'on va donner à manger à nos cellules. Deuxième chose, c'est l'exercice physique dans la nature. Pour pouvoir permettre une très bonne oxygénation des cellules, une très bonne irrigation des cellules. Le troisième pilier, ce sera un sommeil qualitatif et quantitatif suffisant et donc qui va permettre une bonne, je dirais, innervation des cellules. Et enfin, le dernier pilier, c'est la sérénité mentale. Alors, c'est un bien grand mot, hein, mais en tout cas, avoir un état d'esprit suffisamment serein pour ne pas perturber l'information au niveau des cellules. La vie se passe à travers la cellule, que ce soit l'énergie, le vieillissement, la maladie, la réception d'informations, tout se passe au niveau de la cellule. Respecter ces quatre piliers, c'est maintenir à un haut niveau la santé ou rétablir la santé de quelqu'un qui aurait une maladie chronique, par exemple. La cellule, c'est je dirais un peu comme la nature humaine, c'est un petit élément à part entière, une petite, je dirais, substance autonome et qui est en même temps complètement interdépendante des autres. Comme les êtres humains, on est censé être des personnes autonomes et interdépendants entre nous.
Donc lorsqu'on mange, il faut penser à nos cellules. Donc dans ce cas-là, on peut parler de nutrition cellulaire.
Exactement. En fait, dans l'alimentation, on va surtout se nourrir de vie. C'est ce qu'on va donner à manger à nos cellules en priorité. Donc leur donner de la vie. L'alimentation, c'est ce qui sert au bon fonctionnement d'un organisme. Donc oui, on va venir nourrir les cellules. Donc on a plutôt quand même intérêt à vraiment bien prendre conscience de ce qu'on va leur donner.
Sa bouillabaisse. Mmh. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse?
C'était des boîtes. C'était des boîtes.
Des boîtes? Sa bouillabaisse?
Comment conseiller les personnes pour leur alimentation?
Alors, je dirais qu'effectivement, les cellules ont besoin de chaque jour d'un minimum de substances pour pouvoir fonctionner. Donc, les aliments vont servir à ça. Par la digestion, les substances vont arriver jusqu'aux cellules. Donc c'est la digestion qui va faire en sorte qu'on va pouvoir donner ces informations. Donc il va falloir consommer des produits qui vont permettre une bonne digestion. Alors évidemment, plus on consomme vivant, plus on aura de substances dedans, plus de vitamines, de minéraux. Malheureusement, il faut quand même cuire un minimum la nourriture parce que manger tout cru, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et là, je ne vais pas me faire des copains parmi le crudivorisme, mais quelqu'un qui va manger cru, il perd en moyenne 5 à 10 kilos par an la première année et après 1 à 5 kilos les années suivantes. Donc manger tout cru n'est pas bon du tout pour la santé. J'ai des réserves sérieuses quant au crudivorisme. Toute la vitalité est dispatchée sur le système digestif, alors qu'un homme, L'homme, en général, sa vitalité est, on va dire, à 20% sur le système digestif, viscéral, végétatif, et 80% sur le cérébral. Les animaux, c'est l'inverse. Donc, on n'est pas des animaux, donc on ne peut pas manger du tout cru. Déjà, quand on cuit, on prédigère, entre guillemets, ces aliments. Plus, quand on les met dans la bouche, la digestion commence dans la bouche. Donc, ça va être mélangé à la salive, donc à la ptyaline salivaire, qui va déjà commencer à prédigérer les aliments. Donc, c'est déjà manger un petit peu cuit, manger à côté pas mal d'aliments vivants, donc des légumes crus. Si on ne peut pas manger trop de crudités, bah, au moins faire des jus de légumes crus, parce que c'est très riche en vitamines. Et puis voilà, c'est déjà pas mal de commencer par là.
Mais alors, quelle est la place des protéines dans tout ça?
Alors oui, effectivement, on parle de vitamines, minéraux, mais bien sûr, dans un repas, il y a des petites règles à respecter. Donc c'est ce qui fait l'équilibre de l'alimentation aussi. C'est toujours arriver à avoir un mélange de protéines, de glucides et de lipides. Bon, je ne suis pas diététicienne, donc voilà, moi je fais avec ce que j'ai appris et aussi suivant ce que je rencontre, hein, je m'en tiens aux faits. En sachant que les protéines sont effectivement très importantes, c'est grâce à elles que notre système immunitaire va pouvoir fonctionner, qu'on va vieillir aussi moins vite, qu'on va avoir de la force pour se tenir debout. Donc, il y a des petites règles, effectivement, à connaître, parce que l'expérience prouve que, et là, je vais parler des protéines animales, il y a des protéines végétales, bien sûr, mais c'est surtout les protéines animales qui priment, parce que c'est là aussi qu'on va aller chercher tous les acides aminés essentiels, et c'est là aussi qu'on va aller récupérer notamment la vitamine D3. Voilà, c'est surtout dans le règne animal qu'on va la trouver, et c'est celle qui va nous servir à la construction de nos os notamment. C'est grâce à elle aussi qu'on va renforcer notre système immunitaire. Des protéines animales, il y en a 5 sources. Ce sont la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer et les produits laitiers. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de consommer de la viande. Par contre, si on est végétarien, par exemple, on aura vraiment du mal à se passer d'œufs et de produits laitiers. Ça reste indispensable. Il y a un naturopathe, un grand monsieur, c'est monsieur Robert Masson, qui a vraiment expliqué physiologiquement ce qui se passait et biochimiquement dans le corps quand on fait du séparatisme alimentaire. Ce qui est important de signaler, c'est que de tous les régimes qui existent, effectivement, chacun s'accorde à dire qu'il faut une alimentation non dénaturée. Ça, c'est clair, c'est évident. Dès qu'on enlève une partie de l'aliment, effectivement, bah, il va faire défaut dans l'organisme. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que tous ces régimes à la mode qu'on voit, qui reviennent, parce que c'est des régimes qui ont déjà été éprouvés avant, le truc, c'est que à partir du moment où on enlève un aliment, forcément, on allège la digestion. Donc, il va y avoir tout de suite un mieux-être. La personne va se sentir bien, que ce soit du végétalisme, du crudivorisme, du frugivorisme. Tout de suite, on va alléger la digestion. Le problème, c'est que suivant les personnes, donc ça peut durer quelques mois à quelques années pour les plus résistants, au bout d'un moment, elles vont rentrer dans une période de carence pour des raisons qui s'expliquent également parfaitement.
Le corps s'y habitue pourtant. Et justement, est-ce que ça ne l'aiderait pas à accepter cette nouvelle alimentation?
Alors, c'est un peu le danger, c'est qu'au départ, comme je disais, ça peut aller de quelques mois à quelques années. Donc, ça dépend vraiment des personnes. On va aller piocher dans les réserves. Donc là aussi, ça peut durer un certain temps. Donc la personne ne va pas s'en rendre compte au départ. Et puis, il va y arriver une certaine fatigue au fur et à mesure. Mais la personne se dira, mais non, ça ne peut pas être mon régime alimentaire. Jusqu'à présent, ça fonctionnait bien. Ça ne vient pas de ça. Je dois être un peu fatiguée, surmenée, etc. Mais non, justement, c'est là l'avertisseur. C'est attention, là, tu es en train de puiser dans tes réserves. Et attention, parce qu'il peut y avoir vraiment des dommages irréversibles à terme. Donc oui, au départ, c'est la digestion est allégée, donc la vitalité est dispatchée, on se sent beaucoup mieux. Mais à terme, ça va pas durer, quoi. Donc non, le corps s'habitue pas forcément. Et qui plus est, c'est quand on fait une éviction alimentaire comme ça, du coup, le corps va plus s'habituer à digérer les produits qu'il digérait avant. Donc dès qu'on va vouloir réintroduire, par exemple, des protéines animales, ne serait-ce que des œufs, le corps va dire, mais qu'est-ce que tu me donnes là? Moi, je suis plus habituée à manger ça. Enfin, je produis plus les enzymes qui vont servir à digérer ce type de produit. Donc, effectivement, je vais avoir du mal. Et ça, c'est important que d'avoir conscience de cette phase-là aussi, où, attention, de ne pas rentrer dans la phase mystique où on se dit « Ah non, 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 ça ne peut pas être mon régime, je mange très équilibré. » Parce que ce n'est pas toujours le cas. Autre chose aussi, quelque chose à dire de très important par rapport au régime dissocié aussi. Parce que certains pensent qu'il faut mélanger les céréales et les légumineuses pour avoir tous les acides aminés dans l'assiette. Alors certes, oui, on a tous les acides aminés dans l'assiette, mais il y a une loi qui s'appelle la loi du minimum, qui fait que suffit que vous ayez un des acides aminés essentiels qui soit présent à 40%, et bien tous les autres ne seront assimilés qu'à 40%. Donc à terme, il risque d'y avoir également une carence. Donc la théorie céréales légumineuses, ben, on va dire, elle est... Disons que dans la théorie, c'est intéressant, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. On peut donner un autre exemple aussi, le fait de séparer les protéines, c'est-à-dire de manger une protéine animale avec des légumes et de ne pas manger d'hydrates de carbone, donc pas de glucides. Bah là c'est pareil, donc au début ça va aller super bien parce qu'on allège la digestion, mais à terme il risque d'y avoir une fonte musculaire, une anémie, une baisse du système immunitaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que si à un repas on met une protéine animale et qu'on ne met pas un glucide avec, donc ou des pâtes, ou du riz, ou des pommes de terre, ou du quinoa, enfin ou une petite légumineuse, il y aura plus de glucagon que d'insuline. L'insuline, on sait que c'est l'hormone de la nutrition, hein. C'est grâce à elle que les nutriments pénètrent la cellule. Et elle va fonctionner uniquement s'il y a un glucide au repas. Si on ne donne pas de glucides au repas, le corps est bien fait. Hein, c'est-à-dire que la protéine qui aura été utilisée, elle ne servira plus à ce dont elle devait servir. Simplement, le foie va la retransformer. Ça s'appelle la néoglucogénèse hépatique. Donc, grâce à cette protéine, le foie va fabriquer quoi donc ? Du glucose, justement. Voilà. Donc, d'où l'importance, toujours au repas, de mettre une protéine avec une protéine animale, hein, je le répète encore, avec un glucide. C'est très important.
Oh, les rôtis, les saucisses, où sont les fèvres, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poirés? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.
Est-ce que tu as des exemples lorsque tu rencontres des personnes que tu conseilles, quel type de réaction elles ont lorsque tu leur dis faut tout rechanger? Est-ce qu'il y a des rejets? Est-ce qu'il y a une forme d'acceptation?
Alors souvent, je ne fais pas tout rechanger, c'est petit à petit, j'invite les gens tout doucement. Déjà simplement à prendre conscience par quelques explications, des fois je simplifie parce que expliquer comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc donner juste des éléments pour que la personne puisse prendre conscience que ce qu'elle croyait au départ être bon pour elle, au final, ne l'est pas. Donc c'est vraiment donner juste les bons arguments et qui sont prouvés aussi, parce qu'on peut dire « oui, mais qu'est-ce qu'elle m'a raconté ?» Non, voilà, ça s'explique aussi parfaitement physiologiquement et biologiquement, je dirais. Donc c'est pas grand-chose, des fois c'est juste réintroduire un aliment qu'ils avaient mis de côté, refaire des associations qui avaient été défaites, des petites choses comme ça. Ou alors des fois c'est déplacer un aliment, il mangeait à un autre moment. Les fruits par exemple pris au repas, il y a des personnes, le fruit peut gêner vraiment mécaniquement la digestion, surtout s'il y a un farineux au repas. Donc rien que le fait de dire à la personne, est-ce que ça vous embête pas plutôt de manger le fruit par exemple à 17h30, 2h avant le repas du soir, faites ça une semaine et voyez ce que ça donne. Et effectivement, au bout de même 3 jours, la personne vous rappelle en vous disant, oh, j'ai plus les ballonnements, je me sens mieux... c'est tout bête quoi, c'était les fruits. Donc rien que ça déjà, c'est encourageant. Donc la personne a envie d'aller encore plus loin.
Et en termes de quantité, en termes d'aliments par rapport aux adultes, aux enfants, aux personnes âgées, est-ce que tu as des conseils à donner ?
Alors au niveau des quantités, il y a beaucoup de croyances. Par exemple, un enfant va manger en fonction de ses besoins, pas en fonction de son poids. Donc un enfant peut manger beaucoup, hein, même par rapport à un adulte. Donc le but, c'est pas, encore une fois, moi je suis pas diététicienne, donc je vais pas utiliser des quantités. Simplement, on va essayer de respecter ces 5 impératifs d'une bonne alimentation, c'est-à-dire respecter l'alimentation de façon naturelle, la moins dénaturée possible. Ne serait-ce que la baguette de pain, en voilà un bon exemple. Une baguette de pain, aujourd'hui, quand on va chez son boulanger, il reste plus grand-chose dans la baguette, quoi. Le produit est raffiné, donc il n'y a plus de vitamine E, il n'y a plus de magnésium, il n'y a plus de fibres. Donc souvent, ça atteint aussi le système nerveux. Donc on se retrouve avec des enfants qui peuvent être effectivement hyperactifs et des femmes qui ont un problème de stérilité, justement. Donc avoir vraiment, retrouver des aliments où il y a encore des choses dedans, quoi, hein. Ça, c'est hyper important. Avoir une alimentation équilibrée dans le sens, un peu de légumes, par exemple, mais ni trop, ni pas assez. Parce que si on en prend trop, il peut y avoir des flatulences, une dilatation des poches digestives. S'il n'y en a pas assez, il peut y avoir de la constipation, il peut y avoir des carences minérales. Il faut une alimentation mesurée, c'est-à-dire pas grignoter toute la journée. Parce que ça aussi, ça crée une suralimentation globale. Et puis, effectivement, une alimentation adaptée à chaque personne. Donc, par exemple, je donnais l'exemple des enfants. Une personne âgée aussi. Souvent, les papy-mamies, des fois, ils n'ont pas une super dentition. Donc, il y a des produits qui n'arrivent plus à mâcher. C'est pas grave, on va hacher la nourriture, mais on va quand même leur donner un jus de légumes fraîchement pressé pour avoir toutes les vitamines. Rien que ça, déjà, ça va vraiment, vraiment beaucoup améliorer leur vitalité.
Poivron rouge, olive noire, un gros massio de sésame, concombre, oseille, huile d'olive noire. Après, il y a une feuille de céleri, rave. Là, nous avons une asperge. Ça, c'est une moelle de chou-fleur, des artichauts.
J'aimerais aussi qu'on aborde une chose, c'est par rapport au fait de boire. On dit beaucoup, il faut boire plus d'un litre par jour.
Alors, c'est vrai que là aussi, il y a pas mal de croyances. Enfin, on entend beaucoup de choses. Tout est son contraire, je dirais. Ce qui est important, c'est d'écouter son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règle quand on mange. Si c'est pas la question de boire avant. Et puis, si j'ai bu avant, dans ces cas-là, je ne bois pas pendant. Non, il faut boire quand on a soif, déjà, c'est la première chose. Boire un petit peu au repas, bien sûr, et surtout quand on a soif. Si j'avais un conseil à donner, ce serait de ne pas boire des grandes quantités d'eau après le repas, parce qu'effectivement, on augmente ce qu'on appelle la volémie. Donc, le cœur est obligé de pomper plus de sang. Et quelqu'un qui ferait ça tout le temps, à terme, ça peut fatiguer le cœur, effectivement. Donc, ça peut être une mauvaise habitude. Par contre, s'il y a une demande organique du corps, et là, il faut boire. Donc, éviter l'eau du robinet, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même pas mal de cochonneries dedans. Donc, on peut dynamiser son eau aussi. Alors, comment ça se fait ? C'est simplement prendre sa bouteille, ne serait-ce que de la secouer. Parce que l'eau en bouteille, en plus, souvent, elle est vraiment inerte. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, le fait de la secouer, on va un peu redynamiser.
Ça la rend plus vivante.
Voilà, ça la rend plus vivante. Ne serait-ce que de prendre aussi une carafe en verre, mettre l'eau dedans, une cuillère en bois, et puis on va créer une sorte de vortex avec l'eau. Et puis pourquoi pas mettre une intention, ou je sais pas, mettre une petite étiquette, amour, guérison, juste envoyer la bonne vibration. Il y a plusieurs savants qui ont travaillé là-dessus. Hein. On a le Benveniste qui avait mis en évidence les capacités de l'esprit sur la matière. Donc envoyer une information à l'eau, c'est très intéressant ces travaux. Donc nous, on peut le faire effectivement au quotidien. Et d'ailleurs, très récemment, il y a un article qui est sorti, le professeur Luc Montagnier confirmer les travaux de Benveniste là-dessus. Donc, j'invite tous les auditeurs à aller faire un petit tour sur la page du professeur Luc Montagnier. Ça peut être intéressant, effectivement, là-dessus.
J'aimerais aussi qu'on aborde les antioxydants et les radicaux libres.
Donc effectivement, bah, tu l'as très bien dit toi-même, tu as parlé d'antioxydants et de radicaux libres. Donc effectivement, on ne peut pas parler d'antioxydants sans parler des radicaux libres. Donc je parlerai dans un premier temps des radicaux libres, qui sont en fait des cellules qui sont actrices de l'immunité puisqu'elles vont venir digérer les agents infectieux. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Sans ces radicaux libres, il n'y aurait pas de vie organisée. Donc c'est important qu'il y ait des radicaux libres. Là où c'est plus gênant, effectivement, c'est l'excès et la prolongation de production de radicaux libres. Donc souvent c'est créé par la fumée de cigarette par exemple, par une exposition prolongée au soleil, par un stress, par ce qu'on appelle des xénobiotiques. Les xénobiotiques, c'est toutes les substances qui sont étrangères à l'organisme. Donc ça peut être des polluants, des produits synthétiques, des produits pharmaceutiques, des choses comme ça que le corps ne connaît pas. Donc cette fabrication en excès et dans le temps, effectivement, ça a des effets délétères sur la santé. Et donc, la seule manière de lutter contre ça, c'est de consommer des antioxydants. Donc, les antioxydants, on va en avoir dans l'alimentation. Il y en a pas mal. Il y en a surtout aussi dans les fruits et dans les légumes, dans tout ce qui contient des pigments, ce qui donne la couleur aux fruits et aux légumes. Et puis, on va aussi en trouver dans les compléments alimentaires, bien entendu. Donc, on va pouvoir se complémenter. À l'heure actuelle, la plus grosse source de production, on va dire, en excès de radicaux libres, c'est le stress. Puisque le stress prolongé, ben, en fait, va provoquer une surconsommation et une fuite des nutriments essentiels, et ces nutriments qui, eux, servaient à la défense antiradicalaire. Donc, on est tous soumis au stress, hein, mais par expérience, en fait, j'ai pas mal subi les horaires décalés. Et ce, pendant pas loin d'une quinzaine d'années. Et effectivement, l'alimentation joue énormément avec les horaires décalés. Il y a vraiment des choses à mettre en place à l'heure actuelle parce que les gens ne savent absolument pas comment manger quand ils sont en horaire décalé. L'association que j'ai montée, en fait, on a fait tout un atelier sur l'alimentation et les horaires décalés pour les personnes en horaire décalé parce que c'est vraiment très important. Les gens n'ont pas conscience que l'alimentation peut vraiment les aider, d'une part, ou aggraver aussi leur mode de vie.
Artichaut, saumon, jus de carotte,
petit pois,
salade,
maïs, noisette,
fromage blanc,
céleri, beurre, escalope de tomate, salade, betterave rouge,
crevettes,
gâteau,
chou blanc,
râpé.
Les personnes qui sont stressées ont tendance aussi pas mal à grignoter pour pallier aussi à ce manque de sommeil dû à leurs horaires décalés. Comment ça joue dans la digestion ?
Alors oui, en fait, bon, il n'y a pas que les personnes en horaire décalé, effectivement, qui grignotent tout le temps. On a plusieurs raisons pour lesquelles on grignote. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le fait de grignoter tout le temps va vraiment gêner la digestion et du coup, le corps ne va plus faire son travail. C'est-à-dire que déjà, première chose, c'est que quand on va faire un repas, le cerveau, lui, va programmer la digestion pour 6 ou 7 heures. Donc ne serait-ce que si on mange une date alors qu'on en était au stade X ou Y de la digestion, là, tout va s'arrêter pendant 20 minutes, le temps que le cerveau reprogramme une autre digestion. Ça veut dire que les aliments qu'on avait ingérés précédemment, bah, ils vont rester là, ils vont stagner. Donc ça va créer ce qu'on appelle plutôt une fermentation et une putréfaction des aliments qui va se faire. Et donc, il va y avoir une diminution en plus de l'énergie vitale dans l'organisme parce que du coup, il va falloir recommencer. Cette énergie vitale, elle va être plutôt dispatchée sur le système digestif. En plus de ça, on empêche, ça s'appelle le complexe migrant interdigestif. C'est une onde à la fin de la digestion qui passe dans le corps. C'est une série d'ondes qu'on appelle péristaltiques qui vont faire une sorte de nettoyage de l'intestin. Mais si derrière on n'arrête pas de manger, bah, cette onde, elle va jamais passer. Donc pareil, ça va créer en fait des perturbations. Et à terme, le fait de grignoter tout le temps, ça peut également aussi créer des cancers. Ça, on le sait, ça a été suffisamment mis en évidence. Il va vraiment falloir du coup réapprendre à ces personnes, leur donner les moyens de s'alimenter correctement, sans perturber, en fonction de leurs horaires aussi.
Est-ce que toi, tu peux nous parler de ton expérience personnelle en termes d'horaires décalés, de fatigue et comment tu as vu petit à petit qu'il fallait transformer l'alimentation ?
Déjà, première chose, c'est que j'avais commencé par aller voir une naturopathe j'ai pas eu une super expérience parce qu'elle m'a pas vraiment bien orientée. C'est-à-dire qu'au départ, elle me faisait un petit peu ce qu'on appelle de l'alimentation dissociée. C'est-à-dire que je mangeais donc soit une viande avec des légumes, soit des céréales avec des légumineuses. Et puis, comme j'avais les horaires décalés, j'avais un travail très physique à l'époque. Donc, moi, il ne m'a pas fallu longtemps. Au bout d'un mois, j'étais déjà anémiée, fatiguée, fonte musculaire. Je ne dormais plus, hyper stressée. J'ai compris plus tard et pour l'explication que j'ai donnée précédemment pourquoi. Et que du coup, j'ai commencé à appliquer ce que j'avais appris pendant les cours de naturopathie. Et puis là, effectivement, j'avais beaucoup plus de force, ne serait-ce que de vraiment manger des protéines. Pourquoi ne pas commencer le matin justement par manger une protéine ? C'est-à-dire un bout de jambon à l'os ou des œufs à la coque, voilà, des petites choses comme ça. Alors, sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que je mangeais vraiment équilibré. Mais le problème, c'est que je respectais pas le temps de 6 à 7 heures entre deux gros repas. Je mangeais trop tôt. Donc du coup, j'avais une surcharge au niveau alimentaire et du coup, j'étais fatiguée parce que toute la vitalité était, encore une fois, l'énergie était dispatchée sur le système digestif. J'ai espacé un petit peu, j'ai respecté ces 6 ou 7 heures de repas. Donc c'est pour ça que tout ça, ça m'a permis vraiment de mettre en place des formations qui permettent vraiment aux gens de comprendre et adapter aussi suivant leurs horaires.
J'aimerais lire un texte de Umran Mikhail Ivanov par rapport à l'alimentation, la nutrition, qui est essentielle par rapport au rapport qu'on a avec le corps, avec soi. La vie quotidienne est faite d'une suite d'actes que la majorité des humains ont l'habitude de considérer comme très ordinaires. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces actes qui sont absolument nécessaires pour subsister, on peut les transposer dans le plan spirituel et atteindre ainsi les degrés supérieurs de la vie. Prenons l'exemple de la nutrition. Ce qui est essentiel dans la nourriture, ce ne sont pas les aliments eux-mêmes, mais les énergies qu'ils contiennent, la quintessence emprisonnée en eux, car c'est là qu'est la vie. La matière de l'aliment n'est qu'un support. À travers cette matière, c'est la quintessence que nous devons chercher à atteindre, afin de nourrir aussi nos corps subtils. Considérer que nous mangeons pour nourrir seulement notre corps physique est une erreur. Nous mangeons pour nourrir aussi notre cœur, notre intellect, notre âme et notre esprit. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce texte ?
J'ai l'impression qu'il a compris pas mal de choses, ce monsieur Ivanov. Effectivement, Pour moi, il a compris un grand mystère simple de la vie. Élever la fréquence vibratoire de la nourriture, c'est vraiment nourrir son être en entier, que ce soit physique, mais aussi spirituel, éthérique. C'est vraiment mettre une conscience dans la matière. Et je trouve que c'est... Ouais, il a vraiment tout compris avec cette explication, en fait.
Tu parles aussi de manger en conscience. Qu'est-ce que c'est alors manger en conscience ?
Alors, pour moi, manger en conscience, c'est comme je disais, donc élever la fréquence vibratoire de notre nourriture. C'est en fait, c'est entretenir une bonne fréquence avec ce qu'on va donner à notre corps. D'ailleurs, on parle bien de nourriture alimentaire ou spirituelle, mais dans les deux cas, c'est une substance qui va nous permettre de faire fonctionner notre organisme. Donc manger en conscience, pour moi, ce serait simplement avoir conscience de ce qu'on est allé acheter. Déjà, où je vais acheter ma nourriture ? Est-ce que je vais prendre un petit producteur local ? Est-ce que je vais plutôt aller faire mes courses en grande surface ? Quand je prépare à manger, est-ce que je suis bien dans l'instant ? Et quand je vais faire la nourriture, quand je vais faire le plat ? Alors effectivement, on est pressé des fois, donc on peut aller très bien au restaurant, mais le restaurant où je vais, est-ce que je connais le cuisinier ? Est-ce que je sais comment il travaille ? Est-ce qu'il a de l'amour pour ce qu'il fait ? Voilà. Et puis après, quand le plat va arriver, quand je vais l'avoir devant moi, quelle vibration je vais y mettre ? Est-ce que j'avale tout comme ça parce que j'ai faim ? Ou est-ce que je vais plutôt poser mes mains simplement et envoyer par exemple une fréquence, mettre une intention ? Avant, ça arrive encore dans certaines familles, on bénit le repas. Eh bien, rien que ça, le fait de bénir, c'est déjà entretenir une fréquence vibratoire supérieure, on va dire, avec la nourriture. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que c'est créer un lien avec soi. C'est presque un... Se nourrir, c'est vraiment un art sacré. Voilà.
Manger, c'est en fait une méditation, se nourrir.
Manger en conscience, c'est aussi une forme, oui, on pourrait l'assimiler à une forme de méditation, c'est tout à fait juste.
Et ça permet d'être plus présent à son corps, finalement.
Complètement, conscient de son corps, et pas que, et aussi de toutes les subtilités de son corps, et des corps subtils aussi, pourquoi pas, effectivement. Donc pour le coup, quelqu'un qui fait du yoga, et en plus qui mange en conscience et qui boit en conscience, bon bah là c'est génial, il y a tout. Il y a tout, mais après, sans être un super yogi... vraiment juste simplement faire des petites choses petit à petit, vraiment tout doucement, chaque jour essayer de conscientiser un minimum, quoi. Ça commence vraiment par pas grand chose, réintroduire, ne serait-ce que de réintroduire des aliments qu'on avait oubliés, vraiment varier l'alimentation, varier les plaisirs, et puis à chaque fois, ne serait-ce que d'aller faire, aller faire ses courses, savoir auprès de qui on achète. Tout ça, c'est mettre en marche déjà un mécanisme vers la conscience.
Arrête de regarder, mange. Ça se mange, la cuisine.
Oui, mais ça se regarde d'abord, à ce que je sache.
C'est donner plus de qualité à sa vie.
Oui, le rapport qu'on entretient avec la nourriture, c'est vraiment le rapport qu'on entretient aussi avec soi. Ce qu'on va se donner à manger, c'est aussi ce respect qu'on a pour soi, cet amour qu'on a pour soi.
Notre corps est comme un temple, finalement.
Oui, c'est exactement ça, en fait. Considérer le corps, pardon, comme un temple et comme un lieu sacré, en fait. Donc, on en revient au fait que se nourrir est un art sacré et un acte sacré.
Et j'ai envie de dire, faire attention, donc, pour conclure, à ce qu'on y met dedans.
Exactement, à faire attention à ce qu'on y met. Mais en même temps, je vais poser une contradiction, c'est-à-dire que je dirais presque, par rapport à tout ce qu'on a dit, on pourrait presque tout oublier et repartir à zéro, puisque à l'heure actuelle, on a donc la science aussi qui avance pas mal. Bon, on le sait déjà depuis un moment, hein, mais de plus en plus, on parle de physique quantique et de médecine quantique, où on sait pertinemment que l'esprit est capable de modifier la matière. Donc, si on pousse beaucoup plus loin, ça veut dire que peut-être, quelque part, on est aussi capable de transformer complètement notre alimentation, voire de transmuter ce qu'on va manger. Donc, ça pose plusieurs questions et contradictions.
Donc, on peut manger plein de pizza, plein de sucre, de chocolat.
Alors, il faudrait faire le test, mais je pense qu'il faut avoir une sacrée conscience pour pouvoir transformer tout ça. De même que les gens qui ne mangent plus du tout, qui se nourrissent de prana, ça aussi, il y a pas mal de reportages qui ont été faits là-dessus, des choses très, très intéressantes qui soulèvent pas mal d'interrogations. Mais encore une fois, en passant par la physique quantique, on peut comprendre beaucoup de choses.
Non, et ne pas oublier évidemment que manger, c'est un plaisir.
C'est surtout ça le plus important. On est sur cette terre pour se faire plaisir. On n'est pas là pour se souffrir ou être dans l'ascèse. C'est vraiment un plaisir avant tout pour le corps, pour les papilles. Ça va être aussi un plaisir spirituel. C'est vraiment mettre de la vie. C'est faire bouger, vibrer nos cellules. C'est le but, quoi. Vraiment, le plaisir.
Merci Nadège. Est-ce que tu veux bien nous communiquer si tu as un site internet, une adresse email si on veut te contacter?
Oui, alors l'adresse du site c'est www.la-naturopathie.com et effectivement il y a une adresse internet, c'est contact@la-naturopathie.com.
Merci beaucoup.
Merci Anne-Claire. Mere chozito va feli, azin roja moro feli, azin roja moro feli. Serece mi gengem rojam, serece mi gengem rojam. Szeretni lek, de nem írlek. Szeretőd van, sötol filek. Tőlej enged, elmet kérek, tőlej enged, elmet kérek. Úgy szeresselek, míg élek, úgy szeresselek, míg élek.
Azin rozsám, moro feli, azin rozsám.